Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Source, l'émission du Libre de cette même université du même nom. Nous sommes en duplex avec Jean Blou, mes camarades sont là-bas à partir de cet instant précis. Le son devrait vous arriver et voir un petit peu comment ça se passe là-bas avec le... Printemps 2075.be, une initiative des étudiants de la faculté agro de Jean Blou, en partenariat avec celle de Liège et tout ça, tout ça. Mais donc, vous voyez, voilà, ce week-end, enfin, ce vendredi et demain encore, demain toute la journée, n'hésitez pas à faire un tour du côté de Jean Blou, à la belle faculté des agrosciences. Le fait de pouvoir s'imaginer, se projeter dans l'avenir, ce que dans 50 ans on pourrait avoir comme printemps, hein, que l'on a bien maintenant ici. Oh, grand bonheur effectivement de ce moment de douceur qui revient un petit peu par chez nous. Et tout va bien donc de ce côté-là. C'est assez chouette, hein. On doit pas se plaindre trop beaucoup de ces terrasses qui sont en train d'éclore, un petit balcon qui fleurisse, les parasols qui sortent de terre, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est bien Source, l'émission des communautés libristes de Bruxelles notamment, mais du monde entier aussi, qui vous accueille donc tous les premiers et troisièmes vendredis de 18h à 19h30. Et voilà, dès que mes camarades sont au point là-bas à Jean Blou, ça devrait pouvoir le faire. Et d'ici là, donc je dirais qu'en attendant encore un petit peu, vous savez, les joies du direct, hein, comme on dit, la formule consacrée en radio, eh bien, c'est bien pour nous aussi. Voilà, on est en plein dedans. Je présume que, hein, vous savez, hein, on a quand même 90 minutes devant nous. Hein, il n'y a pas pas le feu au lac, comme on dirait. Et qu'à un moment donné, pouvoir... vous laissez le temps de prendre le temps, d'avoir le temps de vous mettre à l'aise, de décompresser quelque peu si la journée, la semaine était rude, si la chaleur dans les transports en commun était quand même assez impressionnante. Je pourrais vous en dire un petit peu plus dans quelques instants, mais pour être sûr que tout se passe bien, je vais nous laisser un petit moment de pause musicale, le temps que tout se mette bien depuis là-bas. Et à ce moment-là, ben, on aura du vrai direct, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ben, écoutez, je vois, par ordre alphabétique, 01, Dubamix, notre dub des Landes. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On se retrouve dans quelques instants.
Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent ben, pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport? Parce qu'il y en a déjà.
Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. C'est un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire des cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes.
Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares.
C'est un projet inutile et dépassé.
projet faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros.
Voilà, comme vous l'avez entendu, il y a un petit écho, le son est en double. On va voir ce qu'on peut trouver comme soluce pour que vous n'ayez que la stéréo, mais en direct, en temps réel. Et à tout de suite.
On est en retard, pas pour rien. On est en retard, pas pour l'état, parce que. On est en retard parce que. Parce qu'on n'est pas à l'endroit habituel. C'est vrai. Parce qu'on n'est pas à l'endroit habituel. C'est vrai. Oui, par exemple, diminuer le son. C'est chouette, diminuer le son. C'est chouette, diminuer le son.
Ça donnera moins l'impression de grotte.
Discute
dans une espèce de grotte.
Avec une résonance profonde. Comme celle-là. Bonjour, bienvenue dans l'émission source. Bonjour, bienvenue dans l'émission source, dans 2.1, de la magnifique que j'essaye de couper. Avec magnifique que j'essaye de couper.
C'est pas drôle.
Parce que sinon, c'est pas drôle.
Et sur radio.be. C'est deux voix qui vous accueillent, puisque la deux voix qui vous accueillent dans la technique. La première voix est plongée dans la technique. Résoudre les derniers petits problèmes. On est donc effectivement on est pas dans les locaux habituels à Bruxelles, mais actuels à Bruxelles, mais en direct. Lors de la dernière émission, on avait un peu annoncé. Depuis le festival, et on a autour de la table.
Allez les copains, attention, il y a des câbles en double, ça ne va plus.
C'est un événement qui est porté par
chers auditeurs, auditrices, on a encore jusqu'à 19h30 pour trouver une belle solution et vous faire un bel écho de ce qui se passe à Jean Blou.
On est place après, présente-toi, on est place après. Au pire, on est entre nous, on nous entend juste pas. On nous entend juste pas, c'est chouette aussi.
Donc, nous avons autour de la table
Alex, Théo et Twitty. Théo, je sais pas, peut-être que je te laisse vous présenter. Alors, Alex, on t'entend pas. Je suis vraiment navré, mais on t'entend pas.
Moi par contre on m'entend super bien, j'imagine.
Voilà, exactement.
Je vais commencer. Du coup moi c'est Théo.
La joie du direct.
Co-organisateur. Non, on m'entend plus. Co-organisateur du festival Printemps 2075. Je suis en troisième année.
À l'université de Jean Blou, en sciences et technologies de l'environnement.
Je suis parti de l'équipe de neuf étudiants.
Il faut que je parle plus fort.
Je parle comme maintenant. Et du coup voilà. Toi Twitine.
Bonjour. Je m'appelle Twitine et je suis étudiante à Jean Blou en bac 3 aussi, option agro. Et donc j'ai rejoint le projet vraiment un peu en retard, mais je fais partie des neuf qui organisent le beau festival.
Attention, est-ce qu'on m'entend? Je crois qu'on m'entend, mais c'est bon.
Tu vois, on t'entend.
Parfait. Donc, comme je disais, je m'appelle Alex, je suis master STE, donc sciences et technologies de l'environnement. Et pareil, je suis un des co-organisateurs du festival. Et c'était, je suis celui qui a déposé l'idée à la base. Donc, il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler, mais c'est moi qui suis tombé sur le mouvement Solarpunk, qui est du coup ce qui est encore dans le festival. Et je me suis dit, il y a moyen de faire un truc intéressant avec tout ça. Surtout que c'était quelque chose qui résonne non seulement beaucoup avec moi, mais avec la philosophie de l'université à proprement parler.
Qu'est-ce que tu veux dire, force ? Enfin, on en approfondira sans doute, mais par rapport à la philosophie de l'université aussi.
Ben en fait, enfin le mouvement solar punk, c'est quelque chose qui est fondamentalement lié au durable. Et Jean Blouf, du peu de connaissances que j'ai, l'université, enfin en tout cas la faculté, qui se concentre le plus sur la durabilité sous tous ses aspects, pas juste l'environnement, mais vraiment enfin les 21 objectifs du développement durable, vraiment les trois piliers, etc. Et donc réussir à essayer de faire de la, parce que on en reparlera quand on parlera du festival, mais faire de la spéculation là-dessus, il n'y a pas meilleur endroit qu'ici où on a vraiment des experts qui ont toutes les données pour.
Et du coup, je me tourne vers Twitin et Théo. Pourquoi est-ce que vous, ça vous a branché de vous lancer dans cette aventure d'organisation d'un festival, puisque c'est quand même une tâche ardue, j'imagine.
Je vais commencer. Moi, je suis très. Enfin, Alex et moi, on est amis de base. Et forcément, il me parlait déjà de ce projet il y a peut-être 2 ans quand même. C'était juste des prémices, pourquoi on ne ferait pas quelque chose sur le solar punk, etc. Vraiment, limite un rêve un peu inaccessible, parce que on a déjà pas mal de choses à faire ici avec les cours, etc. Et on s'imaginait pas vraiment faire ça.
Attends, quoi ? Pendant que tu étudies, t'as des choses à faire ?
Ouais, faut malgré les bières, etc. Il faut quand même travailler par moment. Et réussir ses examens.
Je suis vraiment désolé.
Non, mais du coup, quand il m'a annoncé qu'on avait la possibilité via un financement de créer un festival en tant que portfolio. Je sais pas si on a parlé du portfolio.
Pas vraiment.
En gros, chez nous.
Peut-être expliquer un peu le concept, parce que finalement, c'est grâce à ça aussi que le festival peut se tenir. Enfin, de ce que j'ai compris d'autres discussions qu'on a pu avoir précédemment.
Une chose particulière dans notre cursus, c'est un cours. Donc, c'est quelque chose qui possède des crédits. C'est comme ça. Les crédits, je vais pas commencer à expliquer, mais voilà, c'est un cours de 2 crédits dans notre cursus où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, tant que ça fait intervenir ce qu'on appelle le développement de soft skills, donc organisation, gestion, etc. Et donc ça tombait pile dedans. C'est plus à démontrer depuis toutes les galères qu'on a eues en termes de gestion d'équipe, en termes d'organisation. Ça nous a appris énormément. Et du coup, dans ce cadre de ce cours-là, on a décidé de faire le festival. Ça, c'était une des choses. Et la chose majeure qui a permis de mettre en place tout ça, c'est le financement de 3000 euros d'Evalens. Donc on démarrait pas avec une petite base. 3000 euros pour un portfolio, c'est déjà pas mal. Après on a récolté de l'argent via des subsides, etc. Mais voilà. Donc voilà. En gros, si je veux faire une réponse synthétique, Alex est mon ami, il m'en a parlé, il m'a dit t'es chaud, je suis chaud. Et nous sommes là quelques mois après. Depuis septembre de travail intense, on va dire, on a monté ce petit festival sympa.
Oui, mais les thématiques que vous apportez dans ce festival ne sont pas anodines. Comment vous les avez embrassées pendant toute la phase de préparation de ce festival ? Bonjour, on fait du solar punk, mais comment on le fait ? Comment on le retransmet dans la matérialité réelle d'aujourd'hui ?
Waouh, excellente question.
Question profonde.
Non, mais en fait, c'est une réponse multiple, c'est-à-dire que tu peux poser la même question à plusieurs personnes et personne ne te donnera la même réponse. Donc, parce que le mouvement solar punk, c'est un truc super récent. C'est-à-dire que la première fois que le terme a été utilisé, c'était en 2008, sur un post Tumblr. Donc, autant dire que le fait que ça prenne vraiment forme sous forme d'un vrai courant de pensée artistique, politique, sociale, c'est particulièrement récent et contrairement à la majorité d'autres courants qui sont, disons, tangentiels, genre le cyberpunk, le steampunk, des trucs beaucoup plus connus, eux ont des œuvres fédératrices. C'est-à-dire que quand on pense cyberpunk, on pense Blade Runner, on pense le jeu cyberpunk, on pense l'animé ou le jeu vidéo cyberpunk. Quand on pense steampunk, on voit tous les trucs avec les rouages, les machines à vapeur, etc. Quand on pense solarpunk, les gens disent qu'est-ce que c'est ? Et donc, c'était un challenge particulier, mais aussi une source d'avantage. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas d'œuvre fédératrice, il n'y a pas de choses à copier. Il n'y a pas un truc en mode, ah oui, on doit faire comme ça. On a vraiment été pionniers dans le fait de faire un truc comme ça. Et du coup, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a eu pas mal de réunions où on s'est demandé qu'est-ce que ça nous inspirait le solarpunk. J'avais sur moi pas mal de littérature solarpunk, qui est d'ailleurs disponible à la bibliothèque juste derrière moi. C'est-à-dire,
t'as des titres d'exemple?
Oui. Alors, il y a Glass and Gardens, a Solarpunk Anthology. Il y a Solarpunk Summers. Désolé pour mon accent anglais. Il y a, d'un point de vue littérature un peu plus classique, il y a A Ministry for the Future, un ministère du futur, qui était pas mal connu. Il y a The Wild Robot and Monk Series, c'est-à-dire des, c'est un roman, enfin, eux, c'est vraiment des romans, et tandis que le reste, c'est des anthologies, sauf Le Ministre pour le Futur, qui est aussi un gros roman. Et c'est tout, généralement assez récent, mais ça, enfin, certains se décrivent eux-mêmes déjà comme solarpunk, et d'autres a posteriori ont été mis comme incluant pas mal le solarpunk, parce que du coup il n'y a pas vraiment d'œuvre fédératrice encore visuelle. D'un point de vue littérature, il y a pas mal de trucs comme ça, et il y a Sunvolt aussi, la Solarpunk Anthology. Donc il y a Glass and Gardens, Solarpunk Summers et Sunvolt, qui sont du coup trois anthologies qui ont des poèmes, des textes, des images, vraiment tout ce qui... vraiment c'est genre une espèce de gigantesque brainstorming, c'est très intéressant à lire, et qui du coup en fait nous ont donné un peu une idée de c'est quoi le solarpunk et comment est-ce qu'on peut essayer de concrétiser ça. Et du coup on s'est axé sur, bah ok, le solarpunk c'est un futur durable. Donc si jamais on le simplifie de la façon la plus basique possible, c'est imaginer qu'on est dans le futur et qu'on a atteint ce mode de vie durable. Ok, maintenant qu'on sait ça, comment on y arrive? Et on part de maintenant, on parle de du coup 2025, on fait un bond dans le temps de 50 ans, on est à 2075. 2075, c'est un avenir durable, à quoi ça ressemble? Et puis on fait la marche arrière, comment on fait pour, de ce truc-là, qu'est-ce qu'on a dû faire?
Qu'est-ce qu'on a dû faire comme démarche pour y arriver, ouais, jusque-là?
Peut-être okay. Avant qu'on poursuive sur vraiment le mouvement solarpunk, moi j'avais peut-être envie d'entendre. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans cette aventure? Est-ce que tu connaissais précédemment le mouvement solarpunk?
Pas du tout, mais comme Théo disait, Alex nous avait parlé pas mal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est amis depuis la bac 1. Vraiment,
Mes condoléances. Hein.
C'était vraiment, je pense que j'avais rencontré Théo la première fois au premier cours de l'auditoire. Et Alex, du coup, on s'est rencontrés juste après. Et oui, donc Alex nous en parlait, je savais que son projet avait été validé pour la bourse Ivalens, et franchement j'étais super contente pour lui, mais je me dis un portfolio de 2 heures versus faire un festival, enfin de monter un festival ça prendrait vraiment beaucoup, beaucoup trop de temps que juste 2 heures par semaine, pour moi c'était impossible avec mes cours que je galérais déjà à réussir, donc je me suis dit bah... Je vais peut-être pas me mettre dedans parce que je sais que c'est vraiment de l'énergie et de l'investissement.
Alors, fun fact, sur l'université Jean Blou, vous avez un arbre où vous pouvez vous fracasser le crâne si vous avez raté vos examens. Est-ce que tu t'es fracassé le crâne sur cet arbre?
Non, mais peut-être que je devrais, ça me ferait peut-être réussir.
Tu le fracasses quand tu rates, mais du coup tu n'as jamais raté.
Mais en fait, il y a des cours que je rate vraiment plusieurs fois, donc je crois que je dois me fracasser la tête pour peut-être lever cette malédiction, je ne sais pas.
Oui, parce qu'en fait, avant d'être ici sur le festival, on a un peu visité le campus il y a quelques jours avec Alex et Théo, qui nous ont un peu montré les lieux pour un peu, parce qu'on y viendra plus tard.
Mais
en fait, voilà, les deux qui sont de l'autre côté de la table, en essayant d'animer cette émission, ben, on tient aussi un stand.
Donc, c'est pas, on le fait à l'émission.
On fait l'émission. Et donc c'est vrai que ben on a eu droit à une belle visite de enfin, une super visite de ce magnifique campus. Du coup, au-delà des questions contraignantes, bah finalement qu'est-ce qui en fait t'a motivé finalement à quand même t'engager dans ce festival là?
Vraiment, c'était un soir où j'étais juste posée dans mon lit et il y a Théo qui m'appelle, qui me dit « réponse, c'est urgent ». Et donc il me dit « vraiment, il faut que tu nous rejoignes, c'est la merde, on est en retard sur plein de trucs ».
C'est quel ballon.
Et c'est comme ça que ces projets se montent, hein.
Et donc je lui dis bah ouais, enfin je me sentais vraiment mal de déjà les laisser parce que enfin il avait vraiment l'air en PLS, ça allait pas, et je me dis bah je vais donner un coup de main.
Et au lieu d'avoir un humain en PLS, on en aura deux.
Trois.
Et je lui dis bah je peux aider un petit peu, je pourrais pas, enfin j'ai mes cours à côté, je sais pas, il faudrait pas trop attendre de moi. Et puis au fur et à mesure bah on a vu que bah je gérais bien ma partie, et puis je me suis beaucoup investi dedans. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un projet qui se concrétise comme ça et qui donne vraiment de la motivation et de la positivité aux gens. C'est incroyable.
Du coup, juste pour rappel, le festival 2075 qui se passe actuellement à Jean-Boulou dans l'université, venez nous voir, on est encore là demain, ça va être très fun, ça commence à 13h, ça termine à quelque part par là dans la soirée.
Ouais, ça commence à midi exactement et ça finit à 20h avec des concerts de qualité.
Voilà, parce qu'en fait, au-delà de Stan, enfin, voilà, que j'ai évoqué et de voilà, on parlait tout à l'heure aussi de livres à l'une, enfin, qui sont présentés par la bibliothèque de l'université de Liège. Dans ce festival, vous avez aussi voulu faire place, en fait, vous avez voulu donner plusieurs facettes finalement à ce festival avec une place à des travaux artistiques. Je pense à une expo qui est pas très loin de là où on est, quelques concerts, aussi un pôle scientifique. Est-ce que peut-être Alex, tu peux nous en dire un peu plus ?
Je vais parler de ça et je vais juste faire une petite aparté parce que Twitine parle du fait qu'elle bosse énormément. Il faut prendre en compte que, du coup, oui, pour nous, c'est dans le cadre de notre cours portfolio. Ce n'est pas dans le cadre du cours portfolio de Twitine. Elle est à 110% bénévole et elle bosse autant que nous tous. C'est une
machine. Alors qu'elle n'a aucun crédit à la clé.
C'est purement du bénévolat. Et donc voilà, c'est une machine. Et, ça donne à suivre ça. Et aussi, du coup, pour les audio-spectateurs qui nous écoutent, on est une équipe de 9 au total. Donc, je veux dire, peut-être, étant donné qu'on parle de nous, citer Lampon, citer Noah, Esther, deux Esther, Estelle, Elfie et Lilian, en plus de nous trois.
Qui ont fait un taf monstre,
vraiment, genre sans. Enfin, n'importe quel membre du groupe ici aurait été retiré, ça aurait été le cataclysme. Déjà qu'on appelait Twitine en PLS, alors sans, ça aurait été encore pire.
Mais ce qui était plus dur, c'est que c'est vraiment la première édition de faire un festival. Enfin, il n'y a pas des festivals tous les ans à Jean-Boulou non plus.
C'est surtout qu'on a démarré un projet de absolument zéro. Il n'y avait rien sur la table. On a dû tout créer de nos mains sans expérience, puisqu'en plus, là, en fait. Lilian a un avantage, c'est que Lilian, par exemple, est beaucoup impliqué dans tout ce qui est comité, etc. Donc, le comité, ils organisent ce qu'on appelle ici les 6 heures brouettes. C'est quand même un gros événement. Il sait ce que c'est l'organisation, etc. Mais nous, par contre, on n'est pas du tout dans ça.
Je vois des mains tendre à l'horizontale, les sourcils se lever. Mais oui.
Non, c'est fermement, c'est que genre. L'idée, en fait, moi, c'est ce que j'ai décrit quand j'ai présenté le projet aux gens. Donc, la demande, moi, je l'avais fait pour la demande pour avoir le financement. Je l'avais fait sur un coup de tête. C'était vraiment juste, il y a un appel à projet, je présentais mon truc, ça n'a pas passé, mais comme ça, au moins, ça engendrera une discussion. J'ai gagné.
Par défaut.
C'est-à-dire que...
touche pas ton micro, s'il te plaît.
Je touche pas mon micro, je m'excuse. Donc, j'ai gagné par défaut. Donc, il n'y avait eu juste aucun autre projet qui s'était présenté. Donc, c'est passé de idée sur un coup de tête à j'ai besoin d'un dossier complété dans la semaine. Donc, en fait, il faut visualiser un bébé qui est sur une table avec tout plein de documents administratifs et un pot d'encre. Et qui, par erreur, en se baladant, pose sa main sur le pot d'encre. Et puis, toujours en se baladant, roule et par erreur, signe un contrat sur le fait de devoir maintenant, t'as un an pour faire un festival. C'est à peu près comme ça que je me sentais mentalement. C'est-à-dire que vraiment, voilà, faut imaginer le bébé qui maintenant est chef d'entreprise. Et du coup,
c'est un beau parcours.
C'est ça. Ouais. Particulièrement, mais ça a été particulièrement chaotique. Et du coup, niveau expérience, on n'avait rien. Mais pour revenir à la question que tu avais posée sur les autres aspects du festival, en fait, comme j'ai dit, le but c'est de présenter l'avenir, genre à quoi ça pourrait ressembler 2075 si on est dans cet avenir durable. Et du coup, le but c'est que chaque fragment du festival réponde à sa façon à cette question. Donc il y a une exposition d'art, notre artiste majoritaire c'est Dustin Jacobus, qui a un site web d'ailleurs, Dustin Jacobus, très facile à trouver, qui du coup est un artiste visuel solarpunk, qui se définit comme tel, et qui fait en fait énormément d'éco-spéculation dans ses œuvres. Et du coup en fait, il a, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait ses œuvres souvent sont triées par évolution au fur et à mesure du temps. Donc il va faire une œuvre et c'est genre la ville de Gand actuellement. Et puis une œuvre, c'est la ville de Gand dans 15 ans. Et puis une œuvre, c'est la ville de Gand dans 50 ans, etc. Et du coup, c'est un ancien architecte, donc il s'intéresse beaucoup à l'architecture, et du coup, à, par exemple, une ville qui est entièrement imperméable, de la construction basée sur, par exemple, les coquillages, une école du futur où le bâtiment fonctionne comme un arbre. Et d'ailleurs, truc intéressant, dans une de ses œuvres, il y a la mention de l'open source et de l'open science. Parce que selon lui, c'est nécessaire, genre à l'éducation. Donc voilà...
Juste t'as déjà dropé un gros mot. Juste avant qu'on arrive dans l'open source et l'open science, parce que je sais qu'on va en parler pendant un certain temps. Ouais. Dans ton cas, Titwin, c'est quoi ton pôle d'activité dans le festival? C'est quoi la partie que tu as dit non mais moi je m'en occupe et j'y vais et tant pis?
C'est la partie je pense qu'ils avaient plus de soucis avec l'alimentation et les boissons, mm-hmm. où il y avait énormément de retard là-dessus, et donc je me suis dit, bah, j'ai repris un peu ça et j'avais comme quelques contacts à droite à gauche et j'ai essayé de mettre ça, et franchement c'est l'année où j'ai envoyé le plus d'emails et j'ai envoyé le plus de messages. J'ai jamais eu autant de communication sur toute une année en fait. Mais donc voilà, et je fais donc tout ce qui est alimentaire, et à côté j'ai aussi essayé d'organiser le concert pour samedi.
Et comment tu embrasses l'idée, ok, là on est en train de doucement de toucher à nos sujets, à la thématique de l'émission, hein, mais qui est typiquement l'open science, l'open hardware et ensuite l'open source, qui sont, je crois, intrinsèques au festival, mais pas spécialement de prime abord. C'est une fois qu'on s'y intéresse, parce que quand on dit festival 2075, ça peut pas paraître par essence. Comment toi, tu te places dans... plus une question juste logistique, mais plutôt une question mon apport, moi, en tant qu'humain, de pensée, et qui peut rajouter des pensées dans tout ça.
J'ai pas trop compris la question.
Pardon. C'est comment physiquement tu te places dans le festival?
Plus de ce que je sais apporter, Oula, j'ai pas réfléchi à la question.
C'est pas grave, c'est peut-être non, mais moi j'apporte rien, j'apporte que du physique, et c'est très, déjà très très bien.
Mais peut-être si tu n'étais pas directement dès le début sur le festival, c'est plus difficile de se positionner par rapport à ces questions-là, mais du coup, par exemple, Théo, ton domaine d'activité dans l'organisation de...
Moi, j'ai une réponse pour Twitine. En vrai, elle apporte la bonne humeur dans le groupe.
Ça, c'est sûr.
Un peu de... de soleil, on va dire.
Et surtout le courage. Parce que, en fait, nous, on est en mode oui, on veut pas déranger, etc. Et en fait, le temps qu'on se pose la question de si jamais on contacte quelqu'un ou pas, Twitine a déjà rédigé le mail et a reçu une réponse. Et c'est ça le truc. C'est ça qui est impressionnant.
C'est vrai que je suis assez.
Proactive.
Proactive. Enfin, les posts. Parfois, je poste plus vite que Lilian qui doit poster aussi. Parfois. Je suis assez ambitieuse en fait, et je prends beaucoup les devants, et c'est ça qui fait avancer aussi, mais je suis aussi maladroite, et donc des fois
ça se passe
un peu mal,
oui, enfin, c'est compliqué, mais ça se passe toujours bien.
oui ça, on trouve des solutions, mais voilà, je me rappelle la première bêtise entre guillemets que j'avais faite, c'était de confondre la bière de l'abbaye avec le bar, et en fait ils avaient deux emails différents, et donc j'ai confondu les deux. Oh, et
non, mais je vois très bien la confusion qui peut ils sont déjà pas très clairs. on va leur lancer une première bière qui... ils sont pas clairs, à eux de se débrouiller pour clarifier.
Oui, et puis ils sont venus en réunion, une réunion où j'avais oublié de mentionner qu'ils allaient venir, et donc tout le monde était étonné de les voir, dont moi en fait, parce que j'avais oublié aussi. Et ils arrivent, et puis voilà, ils n'étaient pas trop trop contents, parce que il y a eu des informations qui, voilà.
Je pense que ça se passe dans tout projet, oui. Ce genre de petites choses, de petits moments où on a oublié d'annoncer un truc, oui. Et où il y a un moment gênant. Parlons de bière, je me demande si avant de parler plus avant de l'open source, parce qu'en fait, habituellement, on a l'habitude, comme nos auditeurs et nos auditrices le savent, de prendre l'apéro dans nos locaux, mais il y a aussi quand même de moyens de prendre l'apéro ici à Jean-Blou.
Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Non, pardon, c'est vrai qu'on a un problème dans cette émission, c'est qu'on est entre 18h et 19h30.
Le vendredi
entre 18h et 19h30, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'apéro. Mais c'est compliqué pour... Enfin non, on prend l'apéro avec l'émission, c'est pas compliqué pour nous, parce qu'on est avec vous. Du coup, on vous invite, chers auditeurs, auditorices, de prendre n'importe quel breuvage qui vous fait plaisir. Ça peut être de l'eau, ça peut être une bière, ça peut être du vin, ça peut être un soda, ça peut être un jus, faites ce que vous voulez. Abreuvez-vous, c'est le principal. 5 fruits et légumes par jour.
Bref, je propose qu'on se retrouve peut-être
d'ici quelques minutes
pour peut-être approfondir effectivement l'aspect open science, open source, qui en fait va aussi résonner avec plutôt les préoccupations de notre émission.
On peut en profiter pour finir de décrire les activités du festival, parce que du coup je me suis attardé sur l'artiste puis Dustin Jacobus, mais du coup il y a des conférences.
Oui.
C'est important, c'est-à-dire que il y a des experts de leur milieu qui discutent, que ce soit du coup l'hydrologie, la gestion du sol, l'éthique et l'intelligence artificielle. C'est demain, venez. Il y a d'être beaucoup plus futuriste. Par exemple, est-ce que l'exploration spatiale durable, c'est un mythe ou une réalité? Est-ce qu'on aura vraiment besoin de faire ça ou pas? Et évidemment, du coup, plein de stands, des activités. Demain, du coup, c'est demain, si je ne suis pas utile, l'atelier Markdown.
C'est bien, voilà.
Et alors, chers Bruxellois, parce que c'est là où on est majoritairement diffusé, n'ayez pas peur de venir à Jean Blou, c'est une demi-heure de Gare du Nord, donc vous n'avez pas d'excuses. Ouais. C'est comme traverser Bruxelles. Hein. Donc,
Bah, Alex vient de Jean Blou, donc.
Ouais, moi j'habite à Bruxelles et je prends le train tous les matins, etc. Je tiens à dire que de là où j'habite, j'habite près de Schaerbeek, donc de Schaerbeek à Uccle, ça prend plus de temps que de Schaerbeek à Jean Blou. Vous n'avez aucune excuse.
Oui, et franchement, c'est vraiment sympathique. Et en plus, comme il fait beau, bah, ça gâche rien, puisqu'il y a aussi quand même un peu des stands de bouffe et de boissons à l'extérieur, avec moyen de prendre le soleil, même si on participe à certaines activités.
J'ai envie de dire, vous avez trois types de nourriture. Il y a la nourriture solide, la nourriture liquide, et puis on nourrit vos esprits.
C'est vrai. Si vous venez demain en disant « Hey, je viens de Bruxelles », vous avez droit à une bière. Gratos.
Allez, on se retrouve
d'ici quelques minutes. Je sais pas à quoi tu t'engages.
Je sais pas non plus. Et vous êtes toujours sur Radio Campus dans 2.1 de la bande FM, dans l'émission plus particulière de Source, premier et troisième vendredi du mois, où on essaie de parler de l'UCLibre Libre et de ses communautés. Plus particulièrement, cette fois-ci, on est en duplex parce qu'on peut. Ça nous fait kiffer d'être à Jean-Blou. Et on nous a chaleureusement invités à avoir un stand. Et du coup, si vous voulez nous voir, sachez que c'est à une demi-heure de Gare du Nord, donc vous n'avez vraiment pas d'excuses. Prenez un train.
Sortez sur quoi on finissait, mais on a été informé que il y avait quelques petits. Enfin, on avait entendu qu'il y avait quelques petits problèmes techniques au début, un chouïa, et donc le début n'est pas tout à fait passé correctement sur les ondes. Alors, on s'est dit qu'on allait peut-être reprendre un peu pourquoi on était à Jean-Blou ce soir, pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas une émission au studio comme habituellement, ce qui est quand même un peu plus simple techniquement.
Non, donc, c'est plus chaleureux.
C'est plus chaleureux.
Mais c'est chouette aussi. Et du coup, autour de la table, nous avons de gauche à droite, si vous pouvez vous rappeler qui vous êtes.
Je m'appelle Alex.
De quelle gauche?
Pardon, ta gauche. Okay. Donc, je m'appelle Alex, donc j'ai 23 ans, je suis en première année de Master STE, et j'ai planté la graine du coup pour le projet.
Moi, je m'appelle Théo, je suis en Bac 3 STE, voilà.
Et tu as suivi la graine?
J'ai suivi la graine sans trop réfléchir.
Et moi c'est Tuitine et je suis en bac 3 en option agro. Et j'arrose la graine.
C'est une belle manière de compléter aussi ce qu'on disait tout à l'heure.
Je m'en dis. Juste parce que pour plein de personnes, BCE ça veut juste rien dire.
STE, science et technologie de l'environnement.
Ouais. Je crois qu'on n'a pas eu trop d'acronymes après donc.
Ouais. Ça, voilà. Agro, voilà.
C'est une des quatre options d'études de Jean-Blou.
Et donc, ce soir, on est à Jean-Blou parce que les trois étudiants et étudiantes que nous avons autour de la table avec, si vous êtes neuf, ça veut dire six autres personnes, ont organisé un festival printemps 2075 autour du mouvement Solarpunk. Et là aussi, peut-être, si Alex, sans revenir peut-être sur tous les détails dont on a déjà parlé, mais un peu reprendre ce qu'on disait dans les premières minutes de l'émission sur c'est quoi ce festival, comment c'est arrivé et en fait comment ça s'inscrit aussi peut-être dans par rapport à ce que propose l'université ici à Jean-Blou.
Alors de façon abrégée du coup, le festival printemps 2075, c'est un exercice de pensée pendant deux jours où on s'autorise l'optimisme. C'est-à-dire que donc le mouvement Solarpunk, c'est un mouvement qui veut un équilibre entre technologie et nature. D'un point de vue basique, c'est ça, c'est un avenir durable. Et donc, moi je suis tombé dessus il y a quelques années et j'ai trouvé ça incroyable. C'est le solarpunk, le cousin oublié entre le steampunk et le cyberpunk. Et du coup, c'est un mouvement qui est tout nouveau, qui du coup n'a pas encore d'œuvre fédératrice. Et du coup, j'avais fait quelques recommandations. En littérature, il y a pas mal de trucs. Sunvolt, Glassen Gardens et Solarpunk Summers, qui sont des anthologies qui pourront plaire à tout le monde, parce qu'il y a forcément au moins une histoire là-dedans qui vous plaira. Et d'un point de vue visuel, je vous conseille Dustin Jacobus, qui du coup a une expo d'art ici. Tout est disponible sur son site web. Et du coup, c'est des très bon point d'entrée pour le solarpunk. Et il y a évidemment le manifesto solarpunk et ce genre de trucs pour ceux qui veulent aller un peu plus là-dedans. Et donc le festival printemps 2075, le principe c'est: imaginez que vous arrivez au printemps 2075, on est dans un avenir durable, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là? Et le but c'est de répondre à cette question de plein de façons différentes. Donc on est à Jean-Blou, bio-ingénieur, donc d'un point de vue scientifique, et du coup on a des experts de tous leurs domaines qui vont nous parler d'hydrologie, de gestion de l'eau, de gestion des sols, de développement durable et de changement climatique, de neutralité carbone, d'éthique, d'un point de vue très futuriste, est-ce que l'exploration spatiale durable c'est un mythe ou pas? Ensuite on a énormément de stands, évidemment on a les gens d'ABI, on a plein d'activités et le but c'est que dans tous les thèmes qu'on approche, c'est à quoi ça ressemble maintenant et qu'est-ce qu'il faudrait faire que pour atteindre du coup ce printemps 2075 idyllique et durable. Voilà, je pense que c'est un bon résumé à peu près du festival. Et qu'est-ce que ça a de rapport avec Jean-Blou? En fait, Jean-Blou, c'est du coup la faculté. Avant, c'était, les gens les plus âgés qui nous écoutent se rappelleront de la faculté d'agronomie et de tous les ingénieurs agronomes de Luliège, ça venait de Jean-Blou. Mais ça s'est beaucoup modernisé ces, disons, 30 dernières années, où il y a beaucoup de volonté de faire du coup de travail dans le durable, pas que dans l'écologie, enfin pas que dans l'agriculture et l'agroécologie, mais vraiment du coup dans notre master sciences et technologies de l'environnement, c'est vraiment que ce soit par exemple monitorer les échanges atmosphériques, la neutralité carbone, que ce soit du coup bosser un peu dans les modélisations pour tout ce qui est hydrologie, etc. Mais après, moi je parle beaucoup, mais si jamais Théo et Titine voulaient rebondir sur...
Oui, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose
sur le festival, je crois que tu as été assez exhaustif.
Et après, on pourra revenir plus tard sur la programmation de spécifiquement demain, parce qu'il y a encore plein de choses qui se passent demain, donc ça va être trop chouette. Et vous en faites pas, les couches tard, ça se commence tard. Ça commence à partir à 13h, donc midi.
Midi.
Donc il y a moyen de prendre le train de 10h. Si vous êtes à l'aise, 11h, c'est encore possible.
Il y a un train à 11h16 de Bruxelles Nord qui arrive à... je prends tous les jours, je prends tous les jours le train aller, tous les jours le train retour. Donc je peux vous dire, il y a toujours un train à 16 et un train à 44. Donc si vous êtes motivé, vous prenez le train de 10h44, vous arrivez à 11h30, vous êtes nickel, vous pouvez marcher un peu. Et si jamais vous préférez arriver un peu en retard parce que vous êtes fashion, bah, du coup vous prenez le train de 11h44, vous arrivez pour 12h30 et puis parfait. Donc voilà.
Quelle voie ?
Il n'y a pas d'excuse.
Voilà, il n'y a aucune excuse.
Et du coup, c'est voie 1 ou voie 2 ?
Voie 7 à Bruxelles Nord. Et vous arrivez voie 3 à Jean-Blou.
C'est vraiment presque.
Voilà, 4 ans de train aller et retour, c'est inscrit dans ma mémoire. Je peux faire les yeux fermés.
Je suis assez étonné parce que d'habitude, ils divisent en deux pendant le week-end, mais.
Non.
Cool. Du coup, on arrive à les choix des exposants et des personnes qui participent dans le festival en dehors de vous, faculté, dans le sens où de ce que je vous connais, c'est bonjour, Vérité, t'es assez fou pour me rejoindre. Ouais. Et un peu plus tard, je peux vous donner un coup de main là-dedans. Je suis aussi assez fou pour rejoindre le projet, qui est plutôt donc Aditis qui l'a rejoint un peu en cours de route. Comment tu vois la prise en main du projet en cours de parcours ? De ce que je comprends, tu vas faire toute la partie logistique, boisson, nourriture. Mais comment ça se prend un projet pareil en cours de chemin ?
Je vous avoue qu'à la première réunion que j'ai assistée, j'ai vu que c'était assez... pas très organisé, en tout cas il n'y avait pas assez d'organisation et c'était un peu mal coordonné et du coup je me disais waouh, ça va prendre beaucoup de temps en fait, enfin c'était pas une organisation qui nous faisait prendre beaucoup d'avance, enfin c'est en fait Alex avait préféré donner la parole à tout le monde, que tout le monde puisse s'exprimer, etc. Et donc c'était important que tout le monde ait et ça puisse juste donner son avis, et donc ça prend beaucoup de temps de juste demander à chacun voilà ce qu'il en pense, et donc c'était je pense une hiérarchisation horizontale qu'il avait mis en place, et donc on n'avait pas vraiment une personne un peu en haut de la pyramide qui coordonnait les choses, et donc il y avait des personnes qui ne savaient pas encore ce qu'elles devaient faire, et c'était je pense le projet, il était en cours depuis 2 mois, je pense. Et donc, il y avait encore plein de points d'interrogation. Mais au fur et à mesure, ça s'est vraiment bien mis. Et Alex nous demandait souvent ce qu'il pouvait faire pour s'améliorer, etc. On lui donnait des pistes. Et franchement, maintenant, c'est tip-top, nickel. Et du coup, j'ai repris la partie alimentation et boisson. C'était assez... facile, je dirais, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait, honnêtement. Et donc, ben voilà, le principal, ce que j'ai fait en premier lieu, c'était vraiment envoyer des mails, contacter des personnes. Mais comme du coup, tu le dis, c'était pas n'importe qui. On ne dit pas, je vais pas prendre quelqu'un de... Enfin, qui n'a rien à voir avec l'essence du festival, en fait. Enfin, on essayait de prendre des personnes qui... habiter soit dans Jean-Blou, aux alentours, pour avoir quelque chose de local. Voilà, pas de Coca-Cola, Fanta ou quoi. Donc, vraiment des
choix stratégiques qui ont été faits.
Oui. Et voilà, on essaie de trouver des contacts qui restent quand même dans le thème.
Ce qui fait vraiment beaucoup plaisir dans ton témoignage, c'est à quel point ça témoigne de comment des groupes sociaux... whatever, se réunissent et comment on commence à construire, et puis il y a des choix qui sont faits, hein, parce que quand quelqu'un qui initie un mouvement, il y a plein de manières de décision différentes qui qui peut se mettre en place. Par exemple, la sociocratie est un moyen de décision et qui est plutôt, je crois, ce que vous avez utilisé, et qui se marie très bien avec le logiciel libre. Et je fais un petit lien.
Parce que, enfin, il y a aussi le lien des mails et de voilà contacter des intervenants, ouais, des intervenantes qui soient un peu entre guillemets dans le thème. Ben, en fait, pourquoi on est ici finalement, pourquoi en fait Abeli, donc asso qui promeut le logiciel libre en Belgique, est à Jambloux et donc Tari Rock et moi, puisque voilà les casquettes se recoupent. Tu voulais dire quelque chose?
Ouais. Juste avant d'arriver dans le gros logiciel libre, c'est le logiciel libre est juste un groupe social comme tous les autres et du coup il y a plein de postes, parfois c'est juste et bonjour, moi je vais juste m'occuper des boissons et de la nourriture, fine, et c'est déjà énorme parce que c'est une décharge pour tout le collectif de, non mais on sait qu'il y a telle personne, et c'est là où on rebondit dans le logiciel libre, parce que le logiciel libre fonctionne vraiment pareil sur, et bonjour, je sais pas quoi faire, juste viens présente-toi à une réunion. Le logiciel libre, il est vraiment,
il y aura mille trucs à faire,
plein de choses, il est présent à plein d'endroits différents, et il y a juste plein de choses à faire, et parfois c'est juste, et bonjour, j'ai juste vous aider à organiser tel mouvement, telle organisation, enfin telle présentation, oui, chouette. Et la place des personnes ne doivent pas toujours être, enfin, c'est très difficile, hein, parce que quand on veut pas être mis en avant-plan et qu'on est manifestement mis en avant-plan, je pense à toi Alex spécifiquement, parce que tu m'as rappeler régulièrement de, non en fait moi je suis pas tout seul, je suis avec plein de gens, mais comment on met toutes les personnes, bah typiquement comme toi Titus, en avant-plan sur
Titus.
Ah, je vais l'appeler comme ça,
voilà, t'as trouvé un pseudo, félicitations Titus, incroyable,
je suis navré pour toi,
il y a pas de souci.
Parce que moi je vais partir après, du coup j'ai plus de m'en rappeler, mais toi
c'est pas grave,
ah, jamais, pour son mariage ça va être félicitations Titus.
Voilà, comment on met en premier plan toutes les personnes qui ont participé dans toute la chaîne et juste sans oublier personne, c'est vraiment dur.
Oui. Et ce que j'adore dans le groupe, c'est que c'est vraiment quelque chose de solidaire en fait. Enfin, par exemple, on a chacun donc notre thème principal, mais dès qu'il y a besoin d'aide quelque part et qu'on sait donner de l'aide, ben on y va. Ou même si on a besoin de recevoir de l'aide de une personne qui n'est pas dans le thème, bah, elle va nous le donner. Et c'est vraiment, on est vraiment soudés comme il faut et on se lâche pas. Et c'est incroyable.
Et comment toi tu embrasses du coup la thématique du festival en étant très éloigné? Est-ce que toi plutôt t'es juste dans le concret, moi voici mes tâches très concrètes, amener des choses dans le festival et la thématique du festival m'importe peu, ou plutôt t'y as été parce que ça t'a apporté quand même un chouïa?
Je pense que c'est vraiment 50-50. En fait, dans le sens où j'ai l'impression de fonctionner un peu différemment. Et donc, j'ai énormément d'idées pour le festival. Et pour moi, ça me paraît un peu évident. Mais quand je les transmets, en fait, pour les autres, ils se disent « Ah, mais oui, j'y ai pas pensé. On peut faire ça. » Et moi, je pensais que tout le monde avait pensé à la même idée que moi, alors que pas du tout. Et donc, je pense que j'ai quand même apporter pas mal d'opinions, d'idées, d'options aussi. Et du coup, inversement, ce que le festival m'apporte, c'est beaucoup de confiance en moi, je dirais. Parce que, en fait, avec les cours, j'essaye du mieux que je peux. Je mets beaucoup d'efforts là-dedans, mais plus je mets des efforts et plus je régresse. Donc, je vous avoue que ça commence à devenir un peu déprimant et on se dit autant plus travailler en fait, si c'est le même résultat voire pire, ça donne vraiment plus envie. Et donc ce qu'il y a avec le festival, c'est que plus je mets des efforts et plus il y a du positif qui en ressort, et je vois que mes efforts sont appréciés par tout le monde aussi, donc voilà, et ça donne vraiment envie de continuer et de se mettre dedans, de voir que ça fonctionne en fait.
En tout cas, c'est vraiment une super occasion de rencontre. Après, je pense qu'on parlera un peu dans la troisième partie de l'émission aussi de ce que nous finalement on est venu faire, rechercher en étant ici. Mais on avait envie aussi d'abord peut-être de te poser la question parce que bon, voilà, on parle de mail et tout. Mais voilà, donc Abelli a été contacté par Théo pour venir prendre part au festival par un stand, par une présentation. Enfin, c'était plutôt les stands, je pense, au départ. Pourquoi, à un moment donné, vous avez trouvé intéressant de contacter une asso comme Abelli qui parle de logiciels libres pour ce genre de festival?
Ben, ça va avec un peu mon mood du moment, je vais pas le cacher. Je suis toujours très intéressé par tout ce qui touche au logiciel libre, au librisme, à l'open source, etc. Et je trouvais ça indispensable d'apporter une vision numérique dans un monde durable. On se pose de plus en plus de questions sur ce qu'on mange, sur ses moyens de locomotion, etc. Mais peu de gens commencent à se poser des questions sur leur utilisation de tous les jours, que ce soit sur leur smartphone ou sur leur ordinateur. Et donc, je trouvais l'occasion idéale de contacter des organismes qui s'y connaissent bien et de faire ça correctement pendant le festival. Et je cherchais, j'ai bêtement cherché sur Google et j'ai trouvé Abelli, qui est peut-être la référence.
Google sert à quelque chose finalement.
Ouais. Ah non, en plus, pardon. C'était sur DuckTango, maintenant que j'y pense.
Bravo.
Je dis Google par habitude, mais je crois que c'était sur le petit canard là.
Ce qui est un beau euphémisme, parce que si je te demande, cite-moi la première marque de soda qui t'apparaît dans la tête.
Coca.
Voilà. Je vous propose juste 2 minutes de pause, comme ça on a un peu le temps de souffler, parce que ça fait un peu une demi-heure qu'on papote. Et du coup, ça me permet de rebondir sur. Ben, en fait, qui est en train d'exposer? Pourquoi nous on est là? Et pourquoi on fait une émission ce soir? Vous êtes toujours sur 92.1 de la bande FM de Bruxelles, mais aussi en DAB+, toujours dans la région de Bruxelles, parce qu'ils sont toujours pas mis d'accord pour qu'on soit partout dans le monde. Mais surtout, radiocampus.be pour nous écouter à peu près partout. Et je vous retrouve d'ici quelques minutes si je trouve tous les boutons comme il faut. Get back, I see you around. See that walk when you hear that sound. It's a cartoon spin tune but doesn't hit the ground. Left your devices and your head spins round. But everyone gets heavy, everyone gets paid. Every thought's on fire, pins in a hand grenade. Every step's a signal, every look a sign. Sur Radio Campus 92.1 de la bande FM, mais aussi sur DAB en zone de Bruxelles, mais aussi sur radiocampus.be. Vous êtes particulièrement dans l'émission Source, premier et troisième du mois, où on essaie de parler de logiciels libres et de ces communautés. Particulièrement cette fois-ci, on est à Jean-Loup, on essaie de tenter de faire des petits trips ailleurs. On en a fait plusieurs dans Bruxelles. Cette fois-ci en dehors de Bruxelles, donc on le fait aussi quand on est à Esperanza, enfin, c'est chouette. Et Cette fois-ci, on a été invité dans le cadre du festival Printemps 2075, où on essaye de se poser la question de comment on arrive à vivre jusqu'en 2075, que ce soit de manière analogique, donc eau, nourriture, soleil, imaginez, mais aussi numérique, c'est pour ça qu'on a été invité. Mais avant qu'on explique pourquoi on a été invité, qui est-ce qui sont les exposants dans le festival? Qui sont les artisans qui sont dans le festival? Et pourquoi vous avez choisi?
Bonne question. En vrai, on pourrait pas vous donner une liste comme ça de tête, parce que
c'est pas le but. Hein.
Non, mais oui. Mais, du coup, il y a. Allez, si on devait dire quelques stands, il y a Abeli, voilà.
Hackenfly.
Non, mais il y a Oya, c'est ça. Oya qui fait des poteries. En fait, voilà, Oya représente aussi quelque chose d'important qu'on voulait mettre en avant, c'est le savoir-faire, l'artisanat. Et qui fait un... Oui ?
Non, c'est...
Ouais, c'est l'artisanat qui... On pourrait remettre ça un peu au passé, etc. Mais finalement, nous, on s'est dit que ça avait toute sa place dans le futur, parce que ça va avec un peu la sobriété. Faire les choses soi-même, c'est un peu les valeurs qu'on veut transmettre. Et on sait que, par exemple, moi, je prends toujours l'exemple du changement climatique. La solution, on parle de solutions naturelles, de technologiques dans nos conférences, mais la première chose à faire, c'est la sobriété, changer un peu son mode de vie, consommer moins. C'est ça qui a le plus d'impact. Et du coup, remettre un peu l'artisanat sur le devant de la scène, ça contribue à ça. Donc ça, c'est Oya qui est un peu... sur ça, bah Alex, peut-être les autres.
C'est parce qu'au lieu de devoir faire, parce que si on veut faire une liste exhaustive, on en a pour la demi-heure qui nous reste. Donc, ce qui est plus facile, je pense, c'est juste de se dire qu'en fait, on a essayé de prendre un maximum de milieux différents, de prendre du coup d'un point de vue droits sociaux, d'un point de vue sobriété énergétique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue artisanal. En fait, on a essayé de répartir des thèmes qu'on juge importants pour le futur, et après de prendre du coup dans ces thèmes des gens qui étaient motivés que pour faire ça. Et donc, en fait, on a eu plein de choses. Donc d'un point de vue artisanal, d'un point de vue du coup énergie, d'un point de vue droits sociaux, d'un point de vue environnement, d'un point de vue technique et scientifique, et puis apprendre des trucs. Par exemple, il y a une station météo qui fonctionne là actuellement à genre quelques mètres de nous, ouais, qui donne les données en temps réel.
Elle est magnifique.
Ouais, c'est trop classe. Et il y a une autre plus petite en Arduino, c'est moi qui l'ai faite. Et du coup voilà.
Oh.
Ouais. Et du coup c'est vraiment genre montrer tout plein d'exemples. C'est vraiment des fragments de la réponse à quoi ça peut ressembler un avenir durable en 2075 et comment on y arrive. Et du coup, c'est comme ça, c'était ça notre réflexion derrière. Et après les exemples, tout est disponible sur notre site web, printemps2075.be, comme ça, si jamais il y a des trucs qui vous intéressent.
Et pour voir le programme de...
Absolument, de demain.
Ah oui, pour voir le programme aussi de demain, puisqu'il y a encore des choses demain.
Il y a plein de choses qui se passent demain.
Il y a trois conférences.
Alors, ouais. Non, déjà, vous avez un super atelier sur la brique internet à partir de midi.
Oui, une petite présentation atelier.
On vous ravage les oreilles avec la brique internet. Si vous n'avez toujours pas compris c'est quoi, c'est le bon moment de venir pour comprendre c'est quoi. Par exemple, il n'y a pas que ça. Hein. En fait, il y a plein de conférences qui vont se passer tout le long de la journée. Donc, de mémoire, de demain, c'est de midi jusqu'à 18h.
Jusqu'à
20h. Il n'y a vraiment pas d'excuses. En plus, si vous voulez mettre des visages sur les voix, c'est un bon moment. Par exemple, dans les nombreuses excuses que je peux vous donner, votre ticket va coûter... Non, on va pas aller...
Non, on va pas répéter...
Non, par contre... Alors, pourquoi Amélie est présente dans les participants de ce festival? De ce que je comprends, il y a au moins la thématique du essai libre qui a été sensible pour vous. Vous avez fait des recherches, vous êtes tombé sur le Amélie, mes condoléances.
On n'est pas déçus. Hein. On n'est pas déçus.
Ça va,
pas encore.
Ouais, on pas encore
du coup, tu disais tout à l'heure que en fait, le libre, l'open source, ça semblait avoir de l'importance. En fait, pourquoi est-ce que ça a de l'importance pour vous en 2075, dans un avenir futur durable?
Pour beaucoup de raisons. Je pense qu'en fait, déjà, à Jean Blou, et ça, c'est un truc que Jean Blou fait très bien, c'est nous sensibiliser à l'open science. Donc, pas directement l'open source directement, mais en fait, on a tout un cours qui s'appelle projet expérimental multidisciplinaire, où en fait, on fait une expérience scientifique de A à Z. Et là-dedans, en fait, on apprend beaucoup de choses sur la documentation. Et on a vraiment eu plusieurs heures de cours sur l'open science, sur les articles libres. Et c'est quoi la différence entre libre et... Elle m'échappe.
Open source.
Ouais, entre open source, entre libre et entre voilà. Et du coup, en fait, c'est ça qui nous a, enfin, en tout cas pour moi, c'est ça qui m'a fait découvrir à peu près comment ça fonctionnait. Et du coup, en fait, de l'open science et du fait qu'en fait, bah, fondamentalement, le fait que tout le monde ait droit à l'éducation et aux informations, etc., bah, est venu bah, tout le gigantesque monde de l'open source. Et à partir de là, du coup, bah, Théo a pu échanger beaucoup avec Jacques Mignon. Du coup,
Bernard Pochet, mais Jacques Mignon aussi, mais
Bernard Pochet,
le
Jacques
pionnier ici, c'est Bernard Pochet, voilà. Très très intéressant.
Et du coup, à partir de là, donc il est devenu notre référent open source. Et du coup, c'est étonné que c'est quelque chose qui s'ancre totalement dans un futur durable, c'est-à-dire que le fait de posséder réellement ce qu'on a d'un point de vue informatique, le fait de ne pas dépendre d'une méga corporation qui peut modifier tout à tout moment, et en fait. Un des gros aspects du cyberpunk, c'est le communautaire. C'est pour ça qu'on a voulu faire tout de façon aussi régionale et locale que possible et promouvoir du coup des initiatives étudiantes. C'est que le sentiment de communauté, c'est un truc qui s'est vraiment perdu depuis les années 60 avec le modèle de la famille atomique. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus des villages, on est des gens qui habitons les uns à côté des autres. Si on demande là maintenant à Bruxelles à des gens de nommer trois noms de leurs voisins, je pense qu'il y a deux personnes qui y arrivent. La première c'est tombée en face de moi.
Pardon, voilà.
Et du coup, voilà, ma, vraiment,
la, frantiquement meilleur. Voilà. Alors, la question c'est, parce que c'est un truc que j'ai découvert à Bruxelles, qu'est-ce que tu définis comme voisin? Parce que pour moi, le voisin, il est dans soit le même immeuble, soit le même palier. Et puis j'ai découvert la notion de voisin dans le même quartier. Ouais, mais dans deux quartiers différents. On est voisin de moins en moins. Ouais.
Pour moi, c'est à droite et à gauche. Mais après, ça, voilà, je suis dans une maison, pas dans un appart, donc ça modifie.
Mais non, ouais, j'entends. Mais du coup, on est plutôt sur le niveau du palier, ouais, pour les appartements.
C'est ça. Pour moi, si jamais t'es dans un appartement, c'est en haut, en bas, à droite, à gauche, en face. Voilà, c'est ça tes voisins.
Et si on a personne autour de chez soi?
Bah, tu changes, tu déménages.
Que les... Le campagnard que je suis, il a pas de voisins. Hein.
Alors, c'est pas vrai.
T'as des vaches?
T'as des vaches, oui, des moutons, enfin des chèvres. Ou...
J'ai du blé, oui.
Voilà.
Seulement du blé.
Ouais, j'ai pas de pâturage près de chez moi, j'ai que des...
Mais globalement, malgré le fait que t'aimes pas de voisins, je suis presque sûr que t'as eu un plus fort sentiment communautaire dans ton enfance que la plupart des gens à Bruxelles.
C'est vrai.
Genre, je suis sûr que vous connaissiez tous, genre à l'école.
Oui, oui, bah voilà. Oui. Alors on était 500 dans mon école secondaire, donc...
Ouais, donc voilà. Du coup, malgré le... C'est pas la distance géographique qui crée le truc. Et ça, c'est aussi un truc qu'on promouvoit. C'est qu'il y a des gens, ils sont pas vraiment à côté, mais parce qu'il y a des centres d'intérêt commun ou parce qu'il y a une proximité dans un des événements, ça crée un truc communautaire.
Mais aussi un certain centrisme et une autre dérive qui est, nous avons entre nous, nous cultivons la culture qui a que entre nous, la culture qui est extérieure à nous et d'office répressive, enfin pas répressive, quand on rejette, pardon, on rejette
les primables.
Non, pas réprimable. Vraiment, t'as le phénomène, quand t'as un venin, tu le rejettes, j'ai plus le terme en tête, c'est pas grave. Qui se passe aussi. Et que des communautés avec une plus grande population, avec un plus grand métropolisme, permet de diminuer ça. De ne pas avoir peur de la culture de l'autre.
Oui, c'est sûr.
Il y a plein d'endroits. Enfin, c'est compliqué.
Très.
C'est très compliqué. J'entends que dans le cadre de ce festival, bah, en fait, si on veut vivre plus pérennement, en fait, c'est important de comprendre c'est quoi son entourage.
Absolument.
Et que si on l'ignore, bah, ça a peu de sens.
Oui, non, et l'effet communautaire, c'est nécessaire dans vraiment chaque aspect de notre vie. Parce que, par exemple, enfin, vous l'avez raté, mais on a une conférence qui parlait du coup de la gestion de l'eau, mais aussi un peu de tout ce qui était agriculture. Et du coup, il disait qu'il y a beaucoup de fermes qui sont des très grands territoires gérés par deux personnes. Et du coup, l'idée de ferme communautaire, c'est un truc qui apparaît de plus en plus pour du coup, en fait, vraiment repermettre de créer un lien et en fait d'améliorer la gestion et qu'en fait, tout n'appartienne pas à juste une personne qui a juste un très très grand terrain parce que ça l'avantage ni elle ni les gens autour.
Ce que j'avais demandé dans ce cadre de ce festival, comment vous gérez la dépendance? Parce que dans le CLIM, il y a plein de dépendances, que ce soit humain ou technique. Mais il y a plein de dépendances aussi, surtout humaines, où c'est une personne ou deux personnes, parfois maximum, qui gèrent ce petit bout de logiciel qui est utilisé par 1000 personnes et que si jamais il disparaît demain, bah c'est un problème. Comment on fait pour vivre dans une société jusqu'à 2075 où on s'assure qu'on n'oublie pas les savoirs?
La réponse à ça, c'est la redondance. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on a pris de la nature. C'est-à-dire que c'est un truc que n'importe qui a fait à Jean-Blou pourra vous dire. C'est-à-dire que si jamais vous devez gérer une parcelle, ou de forêt ou d'écosystème ou quoi que ce soit, vous allez avoir plein de fois des espèces qui sont similaires en taille et dans niche écologique. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est redondant. S'il y en a une qui disparaît, l'écosystème, il continue. Parce qu'il y a plusieurs leviers pour ralentir ça. Et pour moi, c'est la réponse pour littéralement la grande majorité de toutes les problématiques, c'est qu'il faut qu'il y ait de la redondance. Je suis vraiment pas expert en logiciel libre, mais il faut qu'il y ait des alternatives. Il faut que n'importe quel logiciel libre, il y en ait deux autres qui fassent la même chose. Comme ça, si jamais il y a un problème, voilà, on a cette redondance-là. Et ça, c'est un truc que faut s'inspirer du vivant. Parce que la nature, elle le fait depuis des millions d'années. D'avoir plein d'espèces qui sont quasiment similaires. Et nous, forcément, vu en Géconde, on va aller les disséquer pour voir c'est quoi la différence. Mais foncièrement, d'un point de vue écologique, elle sert la même fonction pour cette raison-là.
Et je rajouterais, parce que bon, évidemment, parfois la comparaison entre nature et finalement ce qu'on va faire en termes de culture ou en termes de technologie est parfois voilà, quelque chose qui n'est pas toujours une comparaison qui fait forcément sens. Mais en même temps, bah, dans ce que tu dis, finalement, par rapport à la redondance, moi je vois aussi l'aspect qui est proche dans le logiciel libre de un logiciel libre, n'importe qui peut se l'approprier. Et dans des réseaux type décentralisés, finalement, on va casser ce truc où une entreprise ou un prestataire technique va posséder un même service pour avoir plusieurs personnes qui vont l'implémenter, ce qui crée en fait une situation de peut-être redondance n'est pas le bon terme, mais plutôt de finalement de résilience, de manière dont en fait chacune va pouvoir aussi se réapproprier des parts du réseau. Finalement, et là, bon, on est deux à avoir un casque d'Abelli. Pourquoi Tari Rock, est-ce que tu as accepté en tant qu'Abelli de prendre part à un festival comme Printemps 2075?
Alors, moi, j'ai rien accepté. Mais par contre, on peut faire une minute de chaise musicale.
Ah oui, on peut aussi, pour intégrer d'autres personnes dans le cercle.
Un grand merci à Alexandre, Théo.
Titine, oui.
Un grand merci. On va arrêter de vous harceler, parce que maintenant on va passer à notre stand où on va les harceler eux de pourquoi ils sont venus. On vous a cuisiné pendant une heure quart. C'est déjà pas mal, hein. Mm-hmm. Et du coup, je vous propose une micro-pause de genre une minute, juste le temps de faire la chasse musicale, si ça vous va.
Parfait.
Youh, mince. On commence maintenant. Désolé, j'ai peut-être encore fait saigner vos oreilles. Mais Frédéric nous rattrape parce que Frédéric est ton studio et on le remercie beaucoup de gérer la technique en plus de nous. Nous, on gère la technique localement, mais Frédéric gère la technique au niveau de la radio. Et autour de la table, j'ai plein d'humains. Des nouveaux humains. C'est chouette, hein, des nouveaux humains. De plein de personnes à questionner, c'est trop chouette. Et du coup, je propose que vous présentez de ce côté-là à ce côté-là. Et du coup, maintenant, je monte des signes au lieu de dire
des gauches et des droites.
Bonsoir, je m'appelle François. Je fais partie de l'association Les Amis de la Terre et plus spécifiquement d'un groupe qui s'appelle Informétique, grâce auquel je suis en communication avec les gens d'Abelli, Neutrinet et toute cette nébuleuse de gens du logiciel libre.
Je suis Virginie, je suis membre d'Abelli depuis 2018.
Moi, je m'appelle AGO, voilà, je suis Neutrinet et je suis déjà dans Source bien trop souvent. Donc...
Mais qu'on est là, voilà. Encore... Du coup, la question c'est pour Abelli, parce que en fait l'association qui a été invitée dans ce festival c'est Abelli. Abelli est aussi un parapluie de plein d'autres associations. Du coup, on sait que quand on se présente en tant qu'Abelli, on a 25 casquettes au-dessus de la tête. On va juste essayer de garder la casquette Abelli. Pourquoi Abelli a accepté de venir ici?
Pour moi, c'est important à deux aspects. D'abord, ici, ce sont des étudiants, donc pour moi, c'est l'avenir. Ce seront des futurs décideurs politiques ou décideurs dans des entreprises. Et c'est important qu'ils sachent ce qu'est le logiciel libre et qu'ils intègrent une réflexion sur le numérique, voilà, au moment de leurs études. Et je, comme il y avait l'aspect durable, je pense que le numérique est voilà, un des enjeux fondamentaux actuellement, que je comparerais peut-être à l'écologie il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on sait à quel point c'est important. On sait que l'écologie, c'est pas juste le parti écologiste. Enfin, on voit tous les aspects. Et que le numérique, la grande partie de la population ne se rend pas encore compte à quel point le numérique intègre leur vie et va peut-être la diriger. Donc ça fait vraiment partie de l'avenir de prendre conscience des enjeux du numérique actuel et des alternatives qui existent, ce qu'on présente chez Abeli, ici au stand.
Alors si vous avez le plaisir, on vous rappelle, hein, 30 minutes de la gare du Nord de Bruxelles, venez nombreux et nombreuses. Nous avons une bidule box, non
Black box. L'idée, c'est de montrer, je te laisse peut-être en parler.
Quelle est la différence entre un logiciel propriétaire et un logiciel libre ou open source? Voilà, il y a une petite expérience ludique à faire ici sur le stand, sur place, pour ouvrir le dialogue. Et montrer aussi ce qui est important, c'est les valeurs en fait qui sous-tendent le logiciel libre, parce que on parlait tout à l'heure de communauté. Ça permet de faire communauté, et moi je suis aussi dans des systèmes d'échange local, des systèmes d'échange locaux comme le SEL, ou bien un habitat groupé, où on est dans l'entraide, où on pense que refaire des liens sociaux entre humains est une forme de résilience. Et c'est une des valeurs qui sous-tend les logiciels libres. C'est la communauté qui fait vivre, qui fait perdurer le logiciel, qui fait que ça continue et qui fait que ce soit pérenne, quoi.
Et peut-être à Géo
Tu parlais tout à l'heure du lien avec le durable et le logiciel libre. Effectivement, sur le stand, j'expliquais ça, que le logiciel libre permet aussi de faire de la récupération de matériel, et ici avec Neutrinet en plus sur le stand, on propose des serveurs de récupération. Enfin, on reprend des vieux laptops et on en fait des serveurs. Donc on essaie de étendre la durée de vie, donc ouais, totalement. Et après, effectivement, on expliquait l'idée, c'est pas de le faire tout seul, quoi. C'est un peu ça qu'on dit aussi quand on cherche à réduire son impact écologique, c'est de ne pas le faire tout seul. Il y a cet aspect d'entraide totalement, avec par exemple les install parties, mais en fait il y a du support qui est mis en place, soit en ligne ou soit lors de ces install parties, quoi. Je pense effectivement que l'écologie et le logiciel libre sont très liés sur ces aspects-là de durabilité et de entraide. Parce que tout seul, on s'en sortira pas, quoi.
Complètement. Et je rejoins sur le ne fais pas de seul. Qui a déjà monté une toilette sèche tout seul? Une toilette sèche tout seul. Ouais. Peu de monde. On se fait accompagner, on se fait aider. Comme quand on passe au logiciel libre, on ne le fait pas tout seul. On se fait accompagner, on se fait aider. Et il y a plein de collectifs et de personnes militantes qui sont prêts à aider là-dedans. C'est qu'on, entre autres, on témoigne en étant présent dans ce festival à dire « Hey, si ça vous intéresse, on est présent, on est là. » Il y a plein de lugs dans toute la Belgique. Il suffit de les rejoindre ou de les contacter pour qu'on ait un accompagnement sur... pas. Mon ordi, il me plaît pas dans un Windows.
Oui, bêtement, on a eu plein de discussions là, sur, voilà, avec des gens qui ouais, Linux et tout. Mais en fait, avec la fin du support de Windows 10, il y a plein de machines complètement fonctionnelles qui se retrouvent absolument obsolètes. Et donc, ouais. Voilà, en fait, pour moi, présenter du logiciel libre et parler de Linux dans un contexte comme celui printemps 2075, ça a tout son sens, en fait, parce que c'est aussi un des plus gros impératifs, c'est de faire durer ces appareils vis-à-vis des ressources qui s'épuisent, et donc en fait avoir du logiciel qui permet à ces appareils de fonctionner. Mais je pense, François, que tu avais quelque chose à ajouter.
Oui, c'est quelque chose qu'on fait aussi dans les Repair Café beaucoup. C'est un bel endroit pour suggérer aux gens que leur ordinateur ne sera bientôt plus entretenu par Microsoft et qu'il y a quand même une solution, il ne faut pas nécessairement le jeter à la poubelle.
Mais il n'y a pas que ça, hein, qui soit en Repair Café. Tu sais m'expliquer qu'est-ce qu'on fait en Repair Café ?
En Repair Café, normalement, on apprend aux gens à réparer les appareils en panne avec lesquels ils viennent. Normalement, parce qu'il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles ce n'est pas possible, parce que c'est de l'électronique trop fine, il faut un fer à souder spécial, etc. Donc là, en fait, on montre aux gens, on essaie d'expliquer ce qu'on peut expliquer. Mais l'esprit du Repair Café, c'est d'aider les gens à s'en sortir eux-mêmes. Et en informatique, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup plus facilement faire parce que c'est en fait beaucoup de formation. Alors peut-être qu'installer Linux, on ne va pas apprendre aux gens à le faire eux-mêmes, mais par contre, leur mettre le pied à l'étrier une fois qu'il y a Linux sur leur ordinateur, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Et il y a aussi beaucoup de choses à expliquer en fait qui échappent encore aux gens. Lié au logiciel libre, à son intérêt, au fait que c'est un bien commun et qu'on a son indépendance en fait quand on utilise des logiciels libres.
C'est un truc, moi j'ai l'impression aussi d'avoir parfois senti dans des discussions aujourd'hui sur le stand, on voit l'aspect code ouvert, mais on voit pas forcément aussi les valeurs qui vont avec. Mais Virginie, tu voulais compléter quelque chose ?
Oui, pour si vous voulez trouver près de chez vous des collectifs qui font, je ne sais pas si j'ai repris les Repair Café, mais en tout cas des LUC, donc des Linux User Group, sur notre site d'Abeli. Donc l'adresse est abeli-asbl.be. Il y a une carte.
A-B-L-I-I. Pardon. A-B-I-L.
A-B-E-L-I-S-B-L. Mais a priori, vous devriez trouver.
Oui, je pense pas qu'il y en a.
En cherchant sur votre moteur de recherche préféré, on ne donnera pas de nom comme tout à l'heure.
Voilà. Et donc là, il y a une carte heuristique avec une liste d'acteurs, en fait, sur toute la Belgique.
Ouais. Et peut-être qu'on en parlera aussi au moment de l'agenda, mais il y a aussi le projet Open Minds dans lequel Abeli, on a beaucoup contribué pour encoder des données. Donc Open Minds, qui est un projet Erasmus européen, mais il était de cartographier des formations, des acteurs, des ressources, des logiciels plutôt orientés vers le secteur socio-culturel, mais qui, par extension, peuvent aussi intéresser plusieurs personnes. Et en fait, le fait qu'il y ait une carte avec des acteurs permet assez facilement, finalement, de trouver des LUG dans sa région. Par exemple, on cherche des LUG autour de Jean Blou et on va trouver, Louvain Linux, pas très très loin, le Namur LUG, pas très très loin non plus. Et ça permet, en fait, de retrouver des acteurs.
Il n'y a pas un Jean Blug ?
Peut-être.
Ça serait bien.
Pas à ma connaissance, mais... Il pourrait peut-être se créer suite à ce festival, ce serait pas mal.
C'est pour ça que je lance l'appel,
oui.
De manière très subtile.
Voilà.
Ouais, donc. Ah, par contre, du coup, on arrive tout doucement
à la fin,
qu'on parle de l'agenda. Hein.
Donc c'est pour ça aussi que je me disais que Open Mind, c'était une bonne manière finalement de clore ce sujet trop court, où on aurait pu évoquer aussi beaucoup, probablement encore plein d'autres choses. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, et je pense que c'est la première date de notre agenda, à moins qu'il y ait quelque chose sous lequel, peut-être avec le BXLUG.
Douzièmement, j'ai un truc avec le BXLUG. Hein,
ouais. Oui, c'est vrai, quasiment.
Que je retrouve mes petites notes. Non, je ne retrouve pas mes petites notes, donc je vais chercher mes petites notes. Hein,
en attendant, je peux déjà dire du coup que le vendredi prochain, donc vendredi 11 avril, il y a la présentation du coup public au niveau européen du projet Open Mind, avec deux conférences qui auront lieu à Bruxelles.
Tu sais où on peut avoir les infos ?
Oui, on tape via Open Minds et aussi via le site du CESEP qui est partenaire, que j'essaie de retrouver. J'aurais dû le préparer avant.
Je pense qu'on trouvera.
Voilà, Open Minds, donc vendredi 11 avril, présentation publique, conférence, débat et table ronde. À 10h, rendre Internet aux citoyens, les associations ont un rôle stratégique majeur à jouer. Et puis, avec Eric Blanchard et Stéphane Vanden Eede. Et puis à 11h15, intelligence artificielle, droits humains et associations, opportunités, limites et précautions par Philippe Hensmans. Et puis voilà, il y a un cocktail dînatoire à 12h30, donc c'est une matinée de présentation.
C'est plein de choses.
Voilà, et avec évidemment, c'est vrai que je peux commencer par la conférence et débat à 10h, mais à 9h30, il y a aussi la présentation de ce portail Open Minds.
Yep, alors du coup, pour moi, juste un tout petit peu avant, le dimanche 6, comme chaque SZF, hein, c'est un Ripper Café avec une seule partie, donc venez nombreux et nombreux, juste préparez-vous tôt parce que SZF ouvre à 14h, mais il y a déjà une file à ce moment-là. Du coup, on est à rue des Allées 54 à Forêt. Non, c'est XL. Attends.
Quoi? Mais non, les œufs, c'est à XL.
Oui, les œufs, c'est à XL.
C'est près de Germoire, pour ceux qui voient.
Voilà. Ensuite, on enchaîne avec l'atelier DECA, tous les deuxièmes lundis du mois au DECA. Et là, nous avons...
Le 14 avril, on va parler de police prédictive avec Corentin. Après, je peux pas faire le pitch comme ça, mais voilà, ça commence à 18h.
Du coup, pour faire juste un chouïa à l'intro, la police du monde entier compte désormais... sur les algorithmes pour analyser leur base de données et prédire le futur des crimes et délits ou profiter de culpabilité en puissance.
En gros, c'est est-ce que la police peut prédire les crimes et bon, la réponse c'est non.
Voilà, et une actualisation de ce qui se fait sur ces thématiques-là en Belgique, en fait, en phase avec la sortie d'un rapport de la Ligue des droits humains.
Oui, totalement. Donc on va parler
State Watch.
Et je suis navré, on doit rendre l'antenne maintenant. Du coup, c'est la fin. Merci à tout le monde.
Merci.
Merci.
À une prochaine. Et on se retrouve dans 2 semaines, peut-être, normalement.
Oui.
J'imagine, en fait, moi, je ne serai pas là dans 2 semaines. Mais...
Allez, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Oui. Ah oui, et du coup, c'était Source, premier et troisième vendredi du mois, où on essaie de parler de ces livres et de ces communautés, de 18h à 19h30. Et maintenant, c'est On the Road.